La pension de famille. Mrs. Mooney était la fille d'un boucher. C'était une femme très capable de prendre les choses en main, une femme déterminée. Elle avait épousé le contremaître de son père et ouvert une boucherie près de Spring Gardens. Mais sitôt que son beau-père était mort, Mr. Mooney avait commencé à filer un mauvais coton. Il buvait, volait dans la caisse, accumulait les dettes. Il était inutile de lui faire prendre de bonnes résolutions. Il cessait de les respecter après quelques jours à peine. En agressant sa femme en présence des clients et en achetant de la mauvaise viande, il ruina son commerce. Une nuit, il la pourchassa avec le hachoir et elle dut aller dormir chez une voisine. Après cet épisode, ils se séparèrent. Elle alla voir le prêtre et obtint une séparation avec garde des enfants. Elle refusa de lui donner de l'argent, de la nourriture ou quoi que ce fût, ce qui l'obligea donc à s'enrôler auprès du shérif. C'était un petit ivrogne miteux et voûté, doté d'un visage blanc, de moustaches blanches, de sourcils blancs qui se dessinaient au-dessus de ses petits yeux veinés et injectés de sang, et tout le long du jour il restait assis dans la salle de l'huissier, dans l'attente qu'on lui donne un travail à faire. Mrs. Mooney, qui avait retiré de la boucherie ce qui restait de son argent et ouvert une pension de famille sur Hardwick Street, était une grosse femme imposante. Sa pension accueillait une population flottante composée de touristes de Liverpool ou de l'île de Man et occasionnellement d'artistes de music hall. Mais ses pensionnaires fixes étaient des employés de bureaux de la ville. Elle gouvernait la maison avec astuce et fermeté, savait quand faire crédit, quand se montrer intraitable, quand fermer les yeux. Tous les jeunes gens qui résidaient chez elle l'appelaient « la madame ». Les jeunes gens de Mrs. Mooney payaient 15 shillings la semaine pour le gîte et le couvert, excepté la bière au dîner. Ils partageaient naturellement certains goûts et occupations, et de ce fait se montraient très amicaux les uns envers les autres. Ils discutaient entre eux des chances des favoris et des outsiders. Jack Mooney, le fils de la madame, qui occupait un poste de clerc dans une agence de commis sur Fleet Street, avait la réputation d'être un lascar. Il adorait jurer comme un soldat et ne revenait à la pension qu'au petit matin. Quand il rencontrait ses camarades, il en avait toujours une bonne à leur raconter et il était toujours dans un bon coup, c'est-à-dire un cheval gagnant ou un artiste en vogue. Il pouvait également jouer des points et chanter des chansons comiques. Le dimanche soir, il y avait souvent une réunion dans le salon de Mrs. Mooney. Les artistes de music hall poussaient la chansonnette et Sheridan jouait des valses, des polkas, ou leur arrangeait des accompagnements. Polly Mooney, la fille de la madame, chantait également. Elle chantait « Je suis une vilaine fille, pas besoin de s'en raconter, tu sais bien que c'est vrai. » Polly était une svelte jeune fille de 19 ans. Elle avait des cheveux doux et blonds, une petite bouche pulpeuse. Ses yeux, qui étaient gris, avec une pointe de vert, avaient l'habitude de se lever vers le ciel lorsqu'elle parlait à quelqu'un, ce qui lui donnait l'air d'une petite madone perverse. Mrs. Mooney avait d'abord envoyé sa fille faire la dactylo dans le bureau d'une usine de maïs, mais comme l'un des gars du shérif, à la réputation douteuse, se présentait tous les jours au bureau en demandant la permission de lui parler, elle avait fini par la ramener à la maison et par lui faire faire du travail domestique. Comme Polly était pleine d'énergie, on avait eu l'idée de lui confier le ménage des jeunes gens. De plus, les jeunes gens apprécient toujours la présence d'une jeune femme dans les parages. Polly, bien sûr, flirtait avec eux, mais Mrs. Mooney, qui était pleine de sagacité, savait que les jeunes gens ne faisaient que passer le temps. Aucun d'eux n'avait d'intention plus sérieuse. Les choses demeurèrent ainsi pendant un long moment, et Mrs. Mooney finit par envisager de remettre Polly à la dactylographie quand elle remarqua que quelque chose se tramait entre Polly et l'un des jeunes gens. Elle les épia, et tint conseil avec elle-même. Polly se savait observée, et pourtant le silence persistant de sa mère ne pouvait signifier qu'une chose. Il n'y avait pas de complicité entre mère et fille, pas d'entente explicite, mais alors que les gens de la pension commençaient à jaser, Mrs. Mooney continua à garder le silence. Polly commença à agir de manière un peu bizarre, et le jeune homme était lui-même évidemment perturbé. À la fin, quand elle jugea le moment opportun, elle finit par intervenir. Elle tranchait les questions morales de la même façon qu'un hachoir tranche la viande, et sur ce cas particulier, elle avait pris sa décision. C'était un dimanche matin ensoleillé du début de l'été, qui promettait de la chaleur mais avec une petite brise fraîche. Toutes les fenêtres de la pension étaient ouvertes, et les rideaux de dentelle se gonflaient gentiment du côté de la rue, entre leurs cordons relevés. Le beffroi de George's Church carillonnait sans cesse, et les fidèles, seuls ou en groupe, traversaient la petite place devant l'église, révélant leur intention par leur attitude contenue, ainsi que par les petits missels qu'ils tenaient dans leurs mains gantées. Le petit déjeuner était terminé à la pension, et il restait sur la table les assiettes couvertes de traces d'œufs et de petits morceaux de gras de bacon et de quen. Mrs. Mooney s'assit sur la chaise de paille et surveilla la servante, Marie, qui débarrassait. Elle lui demanda de recueillir les croûtes et petits morceaux de pain qui serviraient à faire le pudding du mardi. Quand la table fut nette, que les croûtes furent dûment ramassées, le sucre et le beurre bien à l'abri et sous clé, elle commença à se remémorer l'entretien qu'elle avait eu la veille au soir avec Polly. Les choses étaient bien comme elle l'avait suspecté. Elle fut franche dans ses questions, et Polly fut franche dans ses réponses. Les deux avaient été un peu embarrassés, bien sûr. Ce qui embarrassait la mère était qu'elle ne voulait pas avoir l'air de recevoir la nouvelle d'un air trop cavalier, ou donner l'impression qu'elle était de mèche. Quant à Polly, elle avait été embarrassée non seulement parce que les allusions de ce genre l'embarrassaient toujours, mais aussi parce qu'elle ne souhaitait pas que l'on pensât que, dans sa sage innocence, elle avait deviné l'intention derrière la tolérance de sa mère. Mrs. Mooney jeta instinctivement un coup d'œil à la petite pendule dorée sur la cheminée dès qu'elle prit conscience, à travers sa rêverie, que les cloches de St. George's Church avaient arrêté de sonner. Il était 11h17. Elle avait largement le temps de tirer cette affaire au clair avec Mr. Doran, avant la messe de midi sur Marlborough Street. Elle n'avait pas de doute quant à son succès. Elle avait le poids de l'opinion publique de son côté. Elle était une mère outragée. Elle lui avait permis de vivre sous son toit, présumant qu'il était un homme d'honneur, et il avait tout simplement abusé de son hospitalité. Il avait 34 ou 35 ans, de sorte que la jeunesse ne pouvait être invoquée comme excuse, non plus d'ailleurs que l'ignorance, puisqu'il avait une grande expérience du monde. Non, il avait profité de la jeunesse et de l'inexpérience de Polly, c'était évident. La question était, quelle réparation se proposait-il de faire? Car il fallait bien une réparation dans un cas semblable. Tout est très facile pour l'homme, il peut passer son chemin comme si rien n'était arrivé, une fois goûté son moment de plaisir. Mais la fille, elle, doit supporter les conséquences. Certaines mères se contentaient de régler une pareille affaire par une somme d'argent. Elle en avait connu. Mais ce ne serait pas son cas. Pour elle, une seule réparation était de nature à compenser la perte de l'honneur de sa fille, le mariage. Elle passa à nouveau en revue ses arguments avant d'envoyer Marie dire à Mr. Doran qu'elle souhaitait lui parler. Non, elle n'avait pas de doute quant à son succès. C'était un jeune homme sérieux, qui n'était pas libertin et ne braillait pas comme les autres. S'il s'était agi de Mr. Sheridan, ou Mr. Meade, ou Bantam Lyons, cela aurait été beaucoup plus compliqué. Elle pensait qu'il voudrait éviter le scandale. Tous les pensionnaires étaient plus ou moins au courant de l'affaire. Certains avaient même brodé dessus en inventant des détails. De plus, il était employé depuis 13 ans dans les bureaux d'un grand négociant en vin, catholique de son état, et un scandale pourrait éventuellement lui coûter son travail. Alors que s'il se montrait coopératif, tout irait pour le mieux. Elle savait de source sûre qu'il avait un bon salaire et elle supposait qu'il avait un peu d'argent de côté. Presque la demi. Elle se leva et s'examina dans le miroir en pied. L'expression décidée de son large visage fleuri la satisfit et elle songea à certaines mères de sa connaissance qui n'arrivaient pas à se dépêtrer de leur fille. Mr. Doran était vraiment très angoissé en ce dimanche matin. Il avait essayé par 2 fois de se raser, mais sa main avait été si tremblante qu'il avait dû y renoncer. Une barbe de 3 jours colorait de roux ses mâchoires, et toutes les 2 ou 3 minutes, ses verres de lunettes se couvraient de buée, et il était obligé de les frotter avec son mouchoir de poche. Le souvenir de sa confession de la veille lui causait une douleur aiguë. Le prêtre lui avait arraché les moindres détails ridicules de cette affaire, et à la fin, avait peint son péché sous des couleurs si terribles qu'il eût été presque reconnaissant qu'on lui proposât une échappatoire par une réparation. Le mal était fait. Que pouvait-il faire d'autre à présent que de l'épouser ou de prendre les jambes à son cou? Il ne pouvait pas s'en sortir la tête haute. Il était certain que cela s'ébruiterait et que son employeur finirait par en entendre parler, Dublin est une si petite ville. Chacun y connaît les affaires des autres. Il sentit sa gorge se serrer quand son imagination fiévreuse lui fit entendre le vieux Mr. Leonard crier de sa voix éraillée « Amenez-moi immédiatement Mr. Doran, s'il vous plaît !» Toutes ses longues années de service, dilapidées, tout son zèle et toute son efficacité, balayées. Il avait jeté sa gourme, bien sûr. Il s'était vanté d'être un libre penseur et avait nié l'existence de Dieu dans les pubs en présence de ses compagnons. Mais c'était du passé, et il en avait fini avec tout ça, à peu près. Il achetait toujours un exemplaire du Reynolds Journal toutes les semaines, mais il respectait ses devoirs religieux, et les 9/10 de l'année, il menait une vie très réglée. Il avait assez d'argent pour s'installer, ce n'était pas ça. Mais la famille allait le regarder de haut. Tout d'abord, il y avait son père, de sinistre réputation, et puis la pension de famille de sa mère commençait à être célèbre. Il avait l'impression d'avoir été eu. Il imaginait déjà ses amis en train de parler de l'affaire en riant. Elle était un peu vulgaire. Il lui arrivait de dire « Voye, et si j'aurais su ?» Mais qu'aurait représenté la grand-mère s'il l'avait vraiment aimée ? Il ne pouvait arriver à savoir si ce qu'elle avait fait la rendait aimable ou méprisable. Bien sûr, il était aussi coupable qu'elle. Son instinct lui hurlait de demeurer libre, pas de se marier. Une fois marié, disait son instinct, vous étiez fait. Comme il se tenait assis, impuissant sur le bord de son lit, en chemise et pantalon, elle toqua doucement à la porte et entra. Elle lui raconta tout, qu'elle avait tout rapporté à sa mère et que sa mère devait lui parler ce matin. Elle pleura et mit ses bras autour de son cou en disant « Oh Bob, Bob, qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Elle mettrait fin à sa vie, disait-elle. Il la réconforta mollement, en lui disant de ne pas pleurer, que tout irait bien, qu'elle ne s'inquiète pas. Il sentait contre sa chemise l'agitation de sa poitrine. Tout n'était pas entièrement de sa faute à lui, si c'était arrivé. Il se souvenait parfaitement, avec cette curieuse et minutieuse mémoire des célibataires, des premières caresses incidemment dispensées par sa robe, son souffle, ses doigts. Et puis une nuit, alors qu'il était en train de se déshabiller, elle avait timidement toqué à sa porte. Elle voulait rallumer sa bougie à la sienne, car la sienne avait été soufflée par un coup de vent. C'était le soir où elle prenait son bain. Elle portait une blouse de flanelle imprimée, ouverte et très lâche. Son cou de pied blanc brillait à l'orée de ses pantoufles fourrées, et le sang affluait richement sous sa peau parfumée. De ses mains et de ses poignets aussi, tandis qu'elle allumait sa chandelle, s'élevait un léger parfum. Les soirs où il rentrait très tard, c'était elle qui réchauffait son dîner. Il savait à peine ce qu'il mangeait, à la sentir ainsi près de lui, seule, la nuit, dans la maison endormie. Et sa prévenance. Si le temps était un tant soit peu froid, humide ou venteux, il était sûr de trouver un petit pot de punch tout près pour lui. Peut-être pouvaient-ils être heureux ensemble. Ils avaient pris l'habitude de monter l'escalier ensemble sur la pointe des pieds, chacun avec son bougeoir, et au troisième palier, ils se disaient au revoir à contre-cœur. Ils s'embrassaient. Ils se souvenaient bien de ses yeux, du contact de sa main et de son délire à lui. Mais le délire passe. Il répéta sa phrase et se l'appliqua à lui-même. Que vais-je devenir ? L'instinct du célibataire lui enjoignait de faire marche arrière. Mais le péché était là, et même son sens de l'honneur lui disait que la réparation s'impose pour ce genre de péché. Alors qu'il était assis avec elle sur le bord du lit, Marie vint à la porte pour dire que la madame voulait le voir dans le parloir. Il se leva pour enfiler son gilet et son manteau, plus impuissant que jamais. Quand il fut habillé, il revint vers elle pour la consoler. Tout s'arrangerait, qu'elle ne s'inquiète pas. Il la laissa sur le lit, toute pleurante et gémissant doucement. « Oh mon Dieu !» Dans l'escalier, il dut s'arrêter, car ses lunettes étaient si embuées qu'il lui fallut les frotter. Il ne désirait rien tant que de s'évader par le toit et de s'envoler vers un autre pays où il n'entendrait jamais plus parler de son problème. Et pourtant une force le poussait vers le bas, marche après marche. Les visages implacables de son employeur et de la madame le fixaient dans sa déconfiture. Sur la dernière volée de marche, il croisa Jack Mooney, qui ramenait du garde-manger 2 bouteilles de basse. Ils se saluèrent froidement, et les yeux de l'amant s'arrêtèrent, une seconde ou deux, sur son épais visage de bulldog et ses 2 bras gros et courts. Quand il atteignit le bas de l'escalier, il se retourna. et vit que Jack le regardait depuis la porte du palier. Soudain, il se souvint de la nuit où l'un des artistes de music hall, un petit londonien tout blond, avait fait une allusion grossière à Polly. La réunion avait failli tourner court à cause de la violence de Jack. Tout le monde avait essayé de le calmer. L'artiste de music hall, un peu plus pâle que d'habitude, avait continué à sourire en disant qu'il n'y avait pas de mal. Mais Jack continua à lui crier que si l'un d'entre eux s'essayait à ces sortes de jeux avec sa sœur, il ferait mieux de se mettre les dents au fond de la gorge avant qu'il ne le fasse lui-même. Polly resta un petit moment à pleurer sur le bord du lit. Puis elle sécha ses larmes et se rendit vers le miroir. Elle trempa le bout d'une serviette dans la cruche d'eau et se rafraîchit les yeux avec l'eau froide. Elle regarda les oreillers pendant un long moment et leur vue éveilla en elle des souvenirs secrets et plaisants. Elle reposa sa nuque contre la barre de métal du lit et tomba dans une rêverie. Plus aucune perturbation n'était visible sur son visage. Elle attendit patiemment, presque joyeusement, sans alarme, ses souvenirs se transformant peu à peu en espoirs et visions du futur. Ses espoirs et ses visions étaient si denses qu'elle ne voyait plus les oreillers blancs sur lesquels ses yeux étaient fixés et ne se rappelait plus qu'elle attendait quelque chose. Enfin, elle entendit sa mère l'appeler. Elle se leva d'un bond et courut vers la rampe d'escalier. « Polly ! Polly ! » « Oui, maman ? Descends, ma chérie ! Mr. Doran veut te parler !» Alors seulement, elle se rappela ce qu'elle était en train d'attendre.